Merci beaucoup, Farès Gillon, d'être venu pour se joindre à nous. Farès Gillon est maître de conférence à l'université Aix-Marseille et c'est un spécialiste du chiisme ismaélien en particulier, mais enfin aussi des autres courants chiites. Il a écrit plusieurs articles et une thèse bien savante sur le sujet. Donc, merci d'être venu.
Merci beaucoup. Merci. Je commence par remercier évidemment les organisateurs de la journée, de cette journée Henri Corbin. Et je remercie l'association des amis de Henri et Stella Corbin de m'avoir invité. Lorsque Daniel Prou et Pierre Laurie m'ont contacté pour cette invitation en m'indiquant le thème de la journée, j'ai immédiatement accepté, non seulement parce que c'était l'occasion pour moi de présenter mes travaux sous les auspices du maître, Henri Corbin, mais aussi parce que le concept de la seconde naissance, ou alors seconde création, ou nouvelle création, est extrêmement présent dans l'ismaélisme ancien. Donc il me faut commencer par définir ce que j'appelle ismaélisme ancien. Il s'agit en somme de l'ismaélisme antérieur au règne du quatrième calife fatimide almohade, qui est mort en 975 au Caire. Le règne de ce calife se caractérise en effet par un certain nombre de réformes idéologiques, dont l'adoption ou l'intégration du néoplatonisme dans la doctrine officielle de l'ismaélisme fatimide. Cette réforme n'apparaît pas clairement dans les sources, mais on peut la déduire du fait qu'un certain nombre d'œuvres ismaéliennes, soit composées par Al-Mu'ayz ou alors transmises sous son nom ou composées sous son autorité, contiennent des éléments néoplatoniciens, alors que la littérature fatimide antérieure à son règne en est presque totalement dépourvue. Donc l'objet de cette conférence est d'étudier très brièvement quelques passages d'un ouvrage intitulé le Ta'wil al-Zakat, donc l'interprétation de l'aumône rituelle, et attribué, douteusement à mon avis, à l'auteur ismaélien Ja'far ibn Mansour al-Yaman, qui est un auteur actif dans la première moitié du Xe siècle. Dans cet ouvrage, on trouve ce que je considère comme une première tentative fatimide d'expliquer ou d'exprimer en termes philosophiques certaines doctrines ismaéliennes et notamment des doctrines ayant trait aux missions respectives de Mohammed et de Ali, missions qui sont elles-mêmes directement liées à la thématique de la nouvelle création, comme on va le voir. Donc, l'un des apports philosophiques les plus notables est une façon assez originale d'user du couple de l'acte, du couple philosophique aristotélicien de l'acte et de la puissance. Donc après avoir introduit quelques éléments de contexte sur les plans historiques et doctrinal, je commencerai par présenter, en aval du texte qui nous intéresse, la doctrine dite des deux perfections, telle qu'elle apparaît chez un auteur et philosophe ismaélien fatimide postérieur au Ta'wil al-Zakat, donc Hamid al-Din al-Kirmani. Et puis ensuite, nous lirons quelques textes ismaéliens antérieurs cette fois au Ta'wil al-Zakat et portant sur le concept de nouvelle création. Et enfin, dans ma dernière partie, j'examinerai plusieurs passages du Ta'wil al-Zakat pour montrer ce qu'il faut interpréter comme une tentative d'acclimatation de concepts philosophiques dans l'environnement doctrinal de l'ismaélisme fatimide. La question des rapports entre néoplatonisme et ismaélisme est complexe et loin d'être résolue. Un élément majeur du dossier est le fait qu'une partie de la darwa ismaélienne, basée en Iran, se caractérisait par le recours massif à des textes du néoplatonisme arabe, fusionnant ainsi le chiisme ismaélien et la pensée philosophique. Ce courant est celui que Wilfred Madelung a nommé l'école persane et que j'appelle pour ma part la darwa orientale. Donc ce courant, en fait, forme une exception à la règle que je viens de vous indiquer, selon laquelle l'ismaélisme avant le règne d'Al-Mu'ayz n'est pas philosophique. Il semble que les représentants de la darwa orientale aient été relativement indépendants vis-à-vis de ce que, par contraste, on peut nommer la darwa occidentale, c'est-à-dire celle qui était basée en Syrie pendant la période de clandestinité de l'ismaélisme et dont l'activité aboutira à la fondation du califat fatimide en Éphéria. Évidemment, la question des rapports exacts qu'entretenaient ces deux courants demeure ouverte et entière. Alors, l'existence de ces deux courants de l'ismaélisme est d'importance pour mon exposé d'aujourd'hui parce que il semble que ce soit à la faveur d'un rapprochement opéré par le calife Al-Mu'ayz avec les orientaux, entre guillemets, que le néoplatonisme se ferait un chemin jusque dans la doctrine fatimide, d'où il était jusque-là totalement absent. En effet, donc là, je vous ai mis les principaux représentants de chacun des deux courants ou des deux écoles, si on veut. En bas à droite, vous avez Al-Sijistani. Al-Sijistani aurait, vers la fin de sa carrière, reconnu partiellement la légitimité de l'imam calife fatimide, alors que ses deux prédécesseurs, An-Nasafi et Al-Razi, rejetaient leur autorité. Or, dans le corpus qui est attribué à Ja'far ibn Mansour al-Yaman, donc l'auteur supposé du Ta'wil al-Zakat, deux des œuvres les plus tardives composées sur Al-Mu'az sont précisément les seules, ou quasiment les seules, du corpus transmis sous son nom, à présenter des éléments néoplatoniciens extrêmement proches de ceux qu'on trouve dans la Darwa orientale. Donc l'une de ces deux œuvres en question est justement le Ta'wil al-Zakat. Donc je vous présente brièvement l'auteur présumé du Ta'wil al-Zakat, qui est Ja'far ibn Mansour al-Yaman. Donc j'ai réparti en quelque sorte la douzaine d'œuvres qui lui est attribuée en deux groupes, selon que ces œuvres soient contiennent ou pas du vocabulaire philosophique. Dans le groupe 1, non philosophique, les textes déploient des thèmes chiites assez classiques qui correspondent à ce que Baracher a nommé la Pre-Wahhid School of Exegesis, donc une tradition exégétique de l'imamisme duodécimain, mais qui est partagé donc avec l'ismaélisme ancien et même aussi avec le nousaïrisme. Parmi les thèmes chiites aussi, on remarque l'usage de ce que Amir Moïsi a nommé le commentaire personnalisé, c'est-à-dire un procédé exégétique qui consiste à identifier les éléments positifs du Coran à des personnages positifs des débuts de l'islam dans l'optique chiite, et inversement, à identifier les éléments négatifs du Coran avec les ennemis des chiites au début de l'islam. On trouve dans ce groupe également, au-delà des thèmes chiites classiques, des thèmes qui sont proprement ismaéliens, comme l'initiation, la promotion de la hiérarchie de la darwa, l'herméneutique ismaélienne, le ta'wil, la figure messianique, les cycles historiques, etc. Voilà. Dans le groupe 2, qui est plus philosophique, on retrouve exactement les mêmes thématiques que dans le groupe 1, à quoi s'ajoute ce que j'appelle ici une cosmologie persane. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une cosmologie qui est commune avec celle des auteurs de la Darwa orientale. Donc une cosmologie fortement teintée de néoplatonisme et plus particulièrement de l'ontologie plotinienne. Et donc ce groupe 2 fait la part belle à des concepts et à un vocabulaire technique philosophique qui est absent, encore une fois, des textes du groupe 1. Donc voilà en gros ce que ça donne. Les textes du groupe 1 correspondent ici à ce que j'ai mis en vert, et les textes du groupe 2, bon, vous voyez que j'ai identifié quand même plus de groupes que plus de deux groupes. J'ai mis ici en rouge les ouvrages dont je vais vous proposer des citations. Alors pour récapituler, sur cette frise, j'ai distingué donc les trois étapes qui correspondent en fait aux trois parties de ma présentation. Comme vous le constatez, Ja'far ibn Mansour al-Yaman se trouve dans les deux premières, ceci pour refléter le fait que j'ai divisé son corpus entre œuvres philosophiques et œuvres non philosophiques. Donc la partie ici au milieu, qui correspond au règne de Al-Mu'az, renvoie aux textes de Ja'far qui sont philosophiques, justement. Et donc, en tout en bas, vous avez Hamid Din al-Kirmani, dont je vais vous parler tout de suite, donc, qui est un auteur du fin 10e, début 11e. C'est un des plus grands philosophes ismaéliens, et d'ailleurs, c'est même quasiment le premier philosophe fatimide au sens strict, puisque, encore une fois, les auteurs, les philosophes ismaéliens de la Darwa orientale ne sont pas des fatimides, ne reconnaissaient pas les fatimides, ou pas totalement. Alors que Al-Kirmani, lui, est à leur service. Hein. Il est actif à la cour du Caire. Donc, Al-Kirmani. Alors, dans deux publications, Daniel de Smet a étudié la doctrine kirmanienne qu'il a nommée la doctrine des deux perfections. D'abord dans son livre majeur sur Al-Kirmani, mais aussi ensuite de façon plus approfondie dans un article spécifiquement consacré à cette question. Donc il retrace dans cet article les origines philosophiques de cette doctrine des deux perfections. Donc je renvoie le public à ses publications pour le détail de la doctrine, mais en résumé, il s'agit d'une doctrine noétique selon laquelle le passage en acte de l'intellect, l'obtention de sa perfection seconde, nécessite l'action d'un agent extérieur. Bien sûr, dans l'optique d'Al-Kirmani, cet agent, c'est l'imam. Donc, dans sa première création, l'humain a un intellect en puissance et cet intellect ne peut passer en acte que par l'enseignement, le magistère de l'imam, et par le processus initiatique. Donc, pour illustrer cette doctrine, je vous présente un court passage d'un ouvrage d'Al-Kirmani. Puisque Dieu est sage, puisque l'âme humaine qu'il a créée est un intellect en puissance, et puisque le passage à l'acte de ce qui est en puissance est nécessaire au regard de la sagesse, entendons au regard de la sagesse divine, il s'ensuit de ce décret qu'il est nécessaire que l'intellect devienne en acte grâce à l'établissement de quelqu'un qui le fasse devenir en acte. Cette personne l'enseignera, l'éduquera et lui fera atteindre sa perfection de sorte qu'il deviendra en acte. Donc évidemment, le quelqu'un ici, c'est l'imam. Donc moi, ce que je voudrais faire, en fait, c'est-à-dire que Daniel de Smet s'est intéressé aux racines philosophiques de cette doctrine kirmanienne. Et pour ma part, ce que je vais faire, c'est plutôt m'intéresser aux racines ismaéliennes de cette doctrine, c'est-à-dire de retrouver dans les textes de l'ismaélisme fatimide, antérieur à Al-Kirmani, les éléments qui ont pu être, en quelque sorte, qui ont pu préfigurer voilà, la doctrine de Kirmani. Donc, voilà, donc cette doctrine d'Al-Kirmani, elle s'enracine dans la doctrine de la nouvelle création, Khalq Jadid, qui est bien attestée dans les sources fatimides. Rappelons d'abord que l'expression Khalq Jadid apparaît à plusieurs reprises dans le Coran, chaque fois dans un contexte eschatologique. La nouvelle création, c'est en fait la résurrection. Mais elle est interprétée par les Ismaéliens en un sens initiatique, ce qui d'ailleurs illustre les liens étroits entre ésotérisme et eschatologie, non seulement dans l'ismaélisme, mais aussi en général. Donc dans la littérature ismaélienne ancienne, l'expression revient à plusieurs reprises comme un concept clé. Elle repose sur une conception symbolique de la vie et de la mort, respectivement identifiée au fait d'accéder ou non à la connaissance ésotérique, c'est-à-dire à l'enseignement secret et vivifiant dispensé par les imams. Alors dans le passage que nous avons ici à l'écran, l'expression Khalq Jadid n'apparaît pas, mais en fait elle apparaît dans les lignes qui précèdent immédiatement ce passage. Et en fait ce passage est en fait tire prétexte de l'apparition de cette expression pour nous donner un développement sur les conceptions symboliques de la vie et de la mort. Donc l'auteur cite le verset 3:49 du Coran où c'est Jésus qui parle à la première personne et qui dit « Alors je souffle en lui et il devient oiseau avec la permission de Dieu ». Donc évidemment ça fait référence au pouvoir de résurrection et au pouvoir de donner la vie du Christ. Notre auteur explique « Ceci se trouve dans l'histoire de Jésus. Il y a quelque chose d'analogue dans la communauté de Muhammad. Ali, la preuve de Muhammad et le maître de l'exégèse, insuffle ainsi l'esprit dans les corps, ce qui signifie dans l'ordre ésotérique qu'il projette la connaissance ésotérique sur la science exotérique, affermissant ainsi la religion droite et la parachevant avec la permission de Dieu. Par cette science, il donne la vie aux morts d'ignorance. L'esprit est en effet analogue à la connaissance et l'action au corps. Tout corps dépourvu d'esprit est mort et toute action qui n'est pas accompagnée de connaissance est un corps sans vie. L'ignorant est donc un mort jusqu'à ce que le maître de la vérité lui donne vie par la science de la vérité. Dans cette parole, des morts, non des vivants, mais ils n'en ont pas conscience, donc de Coran 16:21, Dieu s'adresse à ceux qui vivent de la vie exotérique et il dit qu'ils sont morts, morts d'ignorance. Mais ils n'ont pas conscience d'être morts, de leur point de vue, ils sont vivants de leur vie exotérique. L'oiseau, donc l'oiseau du verset 3:49, c'est celui dont le cœur est ravi jusqu'à la connaissance de son créateur, et quant au souffle, c'est la connaissance divine cachée et voilée qui parvient aux croyants. Pardon. Alors, dans un autre texte, là non plus, Khalq Jadid n'apparaît pas, mais on y trouve une interprétation qui est pertinente pour notre sujet, qui est l'interprétation d'un verset coranique qui évoque deux morts et deux vies. Et Dieu a mentionné la parole de ceux qui ont dit « Notre Seigneur nous a fait mourir deux fois et nous a fait vivre deux fois ». Le sens de sa parole est qu'ils étaient morts avant l'appel à l'islam, donc ici appel, c'est, oui, c'est Darwa, de sorte qu'ils devinrent morts au regard de la vie ésotérique, relativement à la vie ésotérique. Puis il leur donna la vie par la connaissance de l'ésotérique, telles sont leurs deux morts et leurs deux vies. Donc, vous avez une mort qui est antérieure à l'islam, parce que vous n'avez pas accédé à l'islam, une première venue au monde, une première vie qui est la révélation de l'islam, en fait, le tanzil, la révélation apportée par Mohammed. Mais cette vie est ambiguë, puisque l'islam, dans l'optique chiite, l'islam sans iman, le zahir sans le batin, le tanzil, la révélation sans le ta'wil, l'herméneutique, est un corps sans vie, pour reprendre l'expression du texte précédent. De sorte que cette deuxième mort ne peut être surmontée que par l'islam ésotérique dont est chargé Ali. Dans ce troisième texte, cette fois, notre expression de Khalq Jadid apparaît bien. Et elle est clairement liée à une signification initiatique. Donc ça apparaît à la fin d'un traité où l'auteur interpelle son lecteur en fait, et l'encourage à poursuivre dans la voie initiatique de l'ismaélisme. Et donc, commentant le verset « Quand vous n'étiez qu'embryon dans le ventre de votre mère, l'auteur dit « Cela signifie quand vous vous allaitiez à l'ésotérique et qu'on vous formait à la connaissance ». Donc il fait évidemment allusion à la formation des missionnaires de l'organisation ismaélienne. Donc quand vous n'aviez pas encore atteint l'étape où vous pouviez manger et parler, c'est-à-dire le rang des missionnaires qui sont envoyés pour l'appel, quand vous atteindrez le rang où vous avez été créé, c'est-à-dire le rang où vous êtes appelé et dans lequel vous aurez été créé de la création nouvelle, le rang de l'appel à la connaissance de l'ésotérique, alors vous accéderez au rang de l'énonciation de l'appel, notre code d'Awa, ce qu'il appelle ici l'énonciation de l'appel, c'est-à-dire l'autorisation en fait, donnée à un missionnaire ismaélien d'aller recruter de nouveaux partisans. Donc évidemment, ils doivent passer d'abord par tout un processus, une formation, un processus initiatique, et au terme duquel on lui donne l'autorisation d'aller lui-même prêcher la bonne parole. Et donc, c'est ce moment où on lui donne cette autorisation est aussi le moment de sa seconde naissance. C'est le moment où il est parvenu au terme de son initiation et donc qu'il renaît. Toute cette idée de la création nouvelle, de la nouvelle création, s'insère dans le cadre d'une analogie stricte entre la vie biologique du corps et la vie spirituelle de l'âme. Cette analogie est systématisée aussi bien dans l'ismaélisme que dans le nousaïrisme. Et elle donne lieu à une symbolisation de l'initiation calquée sur les différentes étapes de la venue au monde d'une nouvelle personne. Le mariage, la conception, la gestation, la nouvelle naissance, l'allaitement, ensuite le passage à des nourritures solides, et tout le processus d'éducation, de tarbiya. Donc dans cette évolution, les rapports du maître et du disciple sont assimilés à ceux de l'homme et de la femme, et ou du père et du fils. En fait, le mariage devient un symbole du pacte initiatique qui est contracté entre le maître et le disciple. Le premier, en sa qualité de mâle symbolique, fécondant le second, femme symbolique, par la connaissance ésotérique. On trouve, encore une fois, dans les sources ismaéliennes, aussi bien que nos séhérites, des déclarations explicites, livrant une méthode d'herméneutique coranique qui fait de chaque mention coranique d'un nom au féminin une allusion à un disciple en quête de connaissance initiatique. C'est le cas, par exemple, de l'épisode où l'épouse d'Al-Aziz, dans le Coran, tente de séduire Joseph, et en fait, les Ismaéliens interprètent ça comme le fait que quelqu'un, un homme, pas une femme, demande à Joseph d'accéder à la connaissance ésotérique. Et Joseph refuse. Donc, au terme d'une première étape de l'initiation, le disciple, de femelle fécondée par le maître, devient le nouveau-né symbolique, et donc l'enfant spirituel de son maître. Les adeptes, ensuite, deviennent membres d'une fraternité symbolique, au sens fort, puisqu'ils sont tous enfants d'un ancêtre spirituel unique, qui est l'imam. Et donc l'une des conséquences de ce système d'analogie, c'est la distinction entre le coït licite et le coït illicite. Le coït licite, c'est celui qui a lieu dans le cadre du mariage, et donc c'est le dévoilement de la connaissance ésotérique qui est sanctionné par le maître, par l'imam ou en tout cas par ses représentants, tandis que le coït illicite, la fornication, c'est un dévoilement de la connaissance ésotérique qui n'est pas agréé par les autorités ismaéliennes. Donc c'est quand vous dévoilez des informations sur les enseignements ismaéliens à des gens que vous n'avez, enfin, voilà, sans avoir reçu l'autorisation de le faire. Alors, j'aborde à présent la troisième et dernière partie de mon exposé consacrée plus spécialement à un ouvrage ismaélien, donc composé dans la seconde moitié du Xe siècle, le fameux Ta'wil Zakat. Et je prépare actuellement une étude de ce texte. Donc, ce que je vous livre ici, ce sont des résultats préliminaires de ma recherche. Alors, cet ouvrage date du règne d'Al-Mu'ez, qui est explicitement nommé dans l'ouvrage. Comme son titre l'indique, il se présente comme une herméneutique, une exégèse de l'aumône rituel, et de fait, les chapitres qui constituent le livre correspondent bien aux différents types d'offrandes qui sont acceptées comme aumône rituel, hein, l'or, l'argent, les bêtes de troupeaux, etc. Donc ça, c'est pour les chapitres, mais en réalité, la zakat en tant que telle est peu traitée, et l'approche de ces offrandes est purement symbolique. Les offrandes sont en fait identifiées soit à des rangs de la hiérarchie ésotérique ismaélienne, ou alors à des hypostases ontologiques. Globalement, l'objet du texte est de promouvoir la hiérarchie de la darwa. On y trouve évidemment une distinction entre zahir et batin, bon, qui est très classique dans le chiisme et dans l'ismaélisme. Mais ici, on constate une insistance particulière sur le fait qu'ils sont absolument inséparables, ce qui est en conformité avec la doctrine fatimide officielle qui, quasiment dès les origines, c'est-à-dire dès que les fatimides ont accédé au pouvoir, ils ont réprimé en fait les orientations antinomistes de certains des membres même de la darwa ismaélienne. Une autre caractéristique du Ta'wil al-Zakat, c'est son ontologie, pardon, qui est identique à celle de l'école persane, je l'ai dit tout à l'heure, et l'usage de vocabulaire et de concepts philosophiques, parmi lesquels, plus particulièrement, un usage assez original, me semble-t-il, du couple de la puissance et de l'acte. Donc je vais m'attarder sur trois passages principaux de cet ouvrage. Dans le premier, l'auteur établit ici une analogie entre ce qu'il appelle le Tali et le Assas. Alors là, il faut que j'explique un petit peu. Dans l'ontologie ismaélienne, qui est en fait une ontologie plotinienne, vous avez donc l'intellect universel et l'âme universelle, qui sont en termes ismaéliens nommés respectivement le précédent et le suivant, Assabekr ou Al-Tali. À ces deux entités spirituelles, correspondent dans notre monde deux fonctions, qui ce que sont la fonction du prophète législateur ou du prophète énonciateur, un Nantep, qui apporte une nouvelle loi, une nouvelle sharia, et la fonction de la fondation, du Assas, qui est en fait l'adjuvant, en quelque sorte, de l'énonciateur. Donc, pour la période islamique, c'est Mohammed, l'énonciateur, et Ali, la fondation. Donc, ce qui est intéressant ici, voilà, c'est cette analogie qui est établie entre cette substance, cette entité spirituelle, l'âme universelle, et la fondation. Et alors, quelle est la raison de cette analogie? C'est je vous lis le texte. Donc, de même que le suivant est la manifestation de la création et son passage de la puissance à l'acte, de même, c'est à la fondation, à Ali, que revient la création de la religion, la manifestation de l'exégèse, la seconde création et la seconde naissance. Donc, que signifie ici le fait que le suivant représente le passage de la puissance à l'acte? En fait, ce que développe l'auteur par ailleurs, c'est l'idée que la première entité créée, l'intellect, est un être en puissance seulement, et que et que l'être dont il est porteur ne passe à l'acte que par l'action de l'âme universelle. L'âme universelle qui est en charge de la gouvernance directe de notre monde matériel. Et donc, c'est seulement par cette gouvernance qu'en fait, le processus d'émanation prend, accède à sa complétude. Et donc, de la même façon, Ali joue exactement le même rôle, dans le sens où il va compléter la révélation qui est apportée par Muhammad. Puisque, encore une fois, dans l'optique chiite, et que les ismaéliens adoptent, l'islam n'est pas complet si l'on se contente de ce qu'a apporté Muhammad, et donc il faut compléter ça par ce dont Ali a la charge, c'est-à-dire l'exégèse, le ta'wil en fait. Et on voit ici que ce ta'wil, ce rôle d'apporter l'herméneutique est assimilé à une seconde création, à une seconde naissance. Un peu plus loin, l'analogie est complétée. Si la fondation est analogue au suivant, c'est ce que je vous disais, c'est aussi parce que l'énonciateur est analogue au précédent. Donc je vous lis le texte. Le précédent est établi à travers un seul degré ontologique, l'existentiation, l'ebda. Oui, alors parce que, dans l'ontologie néoplatonicienne ismaélienne, le premier créé, l'intellect, ne provient pas de l'un, de Dieu, par un processus d'émanation, mais par un processus d'existentiation. Ceci afin de bien marquer la rupture entre les deux, entre le créateur absolu et le premier créé. Par contre, en deçà du premier créé, le processus de passage d'une réalité à une autre est un processus émanatiste. Et c'est pour ça que l'auteur distingue en fait le Freud, alors le terme n'apparaît pas ici, mais l'émanation de l'existentiation, le Freud de l'Ebda. Donc le précédent transmet à son suivant l'établissement des deux degrés que sont l'existentiation et la création. Donc en fait, ce qu'il nomme ici la création, c'est l'émanation. Donc l'intellect provient de l'Ebda, et il n'a que l'Ebda, que l'existentiation. En revanche, l'âme universelle reçoit à la fois... Elle est à la fois en charge, enfin, elle est à la fois un résultat de l'existentiation, puisqu'elle est un résultat de l'intellect qui lui-même est un résultat de l'existentiation, mais elle a aussi en plus en charge ce que l'auteur appelle proprement la création, c'est-à-dire notre monde. C'est pourquoi le suivant est le maître de la seconde création. Donc c'est ça, la seconde création, c'est la première, c'est étant l'existentiation. En raison de la parole de Dieu, serions-nous fatigués de la première création, les voici qui doutent d'une nouvelle création. Par cela, il veut dire qu'ils ont des doutes sur la convocation exégétique de la vérité. De la même façon, la fondation Assas, donc Ali, est le maître des deux degrés, l'exotérique de la loi de l'envoyé de Dieu et son ésotérique. Il est en charge des deux degrés de la révélation et de l'exégèse, alors que l'énonciateur, lui, n'était en charge que d'un seul degré, la loi exotérique et la révélation. Et il a transmis à sa fondation le degré de l'exégèse. Donc là, on commence à entrevoir pourquoi, en fait, ce qu'apporte Ali et l'acte de et le passage en acte de la religion en fait, parce que parce qu'il apporte l'élément qui complète l'ensemble, c'est-à-dire la doctrine ésotérique. Alors dans le second des trois passages que je voulais examiner, l'auteur offre d'assez longs développements sur la distinction entre deux types d'anges, ceux qui sont en puissance et ceux qui sont en acte. Alors bien que le passage affiché n'évoque pas directement la notion de seconde création ou de nouvelle création, il lui est intimement lié par la fonction qui est dévolue aux imams et plus largement par l'idée que l'être en acte appartient à l'imama et non pas à la prophétie. Les anges en puissance sont les récepteurs de l'influx divin. Ils sont ceux qui sont envoyés aux créatures. Lorsque les enveloppes de ceux qui reçoivent l'influx se corrompent, leur forme spirituelle passe de la puissance à l'acte en se séparant des formes corporelles. Ils deviennent alors des anges en acte après avoir été des anges corporels en puissance. Tels sont les anges rapprochés. Donc de quoi parle l'auteur ici alors je reviendrai sur la tonalité transmigrationniste du texte, mais je vous donne tout de suite la clé qui est dans le passage suivant. Donc les anges rapprochés, ce sont ceux qui apparaissent en acte et ce sont les imams. Tandis que les anges en puissance, ce sont les envoyés, les rossols, assistés de Dieu. Je reviens sur ce passage où On note encore une fois, comme je le disais, la tonalité transmigrationniste du texte, indiquée notamment par l'usage du terme de korleb, ou ici au pluriel korwaleb, donc les enveloppes, pour désigner le contenant corporel d'une forme spirituelle. Et cette doctrine donc est confirmée dans le passage suivant, où les anges en acte sont expressément identifiés aux imams. Donc l'idée, c'est que la religion n'est parachevée qu'à travers les imams, et c'est pour ça qu'ils sont des anges en acte. Et quant à la doctrine de la métempsychose, l'idée semble être de dire que la disparition physique des prophètes, corporelle des prophètes, est en quelque sorte compensée par la permanence de leur forme spirituelle comme ange de la proximité, c'est-à-dire comme ange en acte, c'est-à-dire comme imam. Dans un autre passage du livre, que je ne vous donnerai pas ici, il y a une autre raison qui est donnée pour cette répartition de la puissance et de l'acte entre prophète et imam. C'est l'idée que les prophètes sont sujets au péché, comme l'indiquent de nombreux exemples que l'auteur donne, notamment la désobéissance d'Adam, le fait que Moïse demande à voir Dieu. C'est un épisode très commenté. Donc les prophètes commettent des erreurs qui tiennent plus d'un excès de zèle de leur part que d'un vrai péché, mais bon, ils sont quand même sujets à l'erreur, alors que les imams, eux, sont impeccables. Le terme qui est employé est le même que dans le chiisme de Décimin, c'est le marsoumin. C'est avec l'allusion à l'arrestement. J'en viens à présent au dernier passage qui se trouve dans la dernière partie du Tawil al-Zakat. L'auteur y évoque longuement les trois entités spirituelles qui, dans l'ontologie philosophique ismaélienne, sont immédiatement en deçà de l'intellect et de l'âme universelle. Ces trois entités sont al-Jad, al-Fath et al-Khayal, qui sont respectivement identifiées aux anges Israfil, Michel et Gabriel. Donc, dans l'ontologie ismaélienne, ils sont présentés comme des hypostases ontologiques, mais en réalité, ces hypostases sont principalement définies par leur fonction noétique, c'est-à-dire que leur fonction est de transmettre en fait les influx divins qui viennent de l'intellect et de l'âme aux prophètes et aux imams. Dans le Tawil al-Zakat, chacun de ces anges fait l'objet d'un développement conséquent, et celui consacré à Israfil se déploie autour du verset coranique 39-68, qui mentionne les deux souffles de la trompe au jour du jugement. Donc je vous lis le verset. « Il sera soufflé de la trompe, al-sur, et voici que ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux que Dieu voudra épargner. » Puis on y soufflera de nouveau, et voici qu'ils seront debout à regarder. Donc le premier souffle foudroie ou terrasse toutes les créatures, tandis que le second les ramène à la vie. Le terme employé ici, d'ailleurs, pour le fait d'être terrassé, qui est de la racine saraka, et en fait, c'est la même racine que le terme employé ailleurs dans le Coran pour décrire l'évanouissement de Moïse lorsque Dieu réduit une montagne en poussière en s'y révélant. Et évidemment, ça, ce n'est pas sans rapport avec la dualité de l'exotérique et de l'ésotérique, puisque dans le Tawil al-Zakat même, cet épisode est commenté et interprété comme une illustration de la peccabilité des prophètes, comme je l'ai dit, qui recherchent un rang supérieur au leur, bien qu'il n'en ait pas le droit, qu'il n'y ait pas droit. Donc l'erreur des prophètes est un excès de zèle, une surobéissance, si l'on peut dire. Et le foudroiement de Moïse, dans ce cadre, indique la rupture entre le rang de Moïse, prophète législateur par excellence, et les rangs supérieurs. Alors revenons au foudroiement ou terrassement eschatologique qui suit le premier souffle de la trompe d'Israfil. Donc, commentant le verset que je viens de citer, l'auteur écrit « Les images, sur ou suar », donc là il y a manifestement un jeu de mots dans le texte, puisque c'est jamais très clair s'il faut lire « sur », c'est-à-dire la trompette, le terme coranique, ou « suar », les images. Et l'auteur joue manifestement volontairement sur l'ambiguïté. Donc les images sont l'influx des sciences de la sagesse qui sont reçues et représentées dans les âmes des gens des vérités ésotériques. Ceci est alors contenu dans leur poitrine en puissance. Cela est nommé image car il s'agit d'une représentation dans les poitrines de quelque chose qui n'a pas été manifesté par la prononciation, de sorte que cela est en puissance. Lorsque les connaissances reçues par un flux divin sont prononcées et énoncées, alors elles passent à l'acte et sont nommées créations, après n'avoir été que des images. Donc on retrouve notre dualité entre le khalq, donc qui est le lieu de l'acte, et le niveau antérieur, ici la représentation ou l'image, et dans l'autre texte c'était l'existentiation, qui représente l'état en puissance. Donc ici, voilà, le couple de l'acte de la puissance est employé dans le domaine noétique. La connaissance qui est reçue des entités spirituelles, elle demeure en puissance tant qu'elle n'est pas prononcée, c'est-à-dire dévoilée et disséminée. Cette insistance d'ailleurs sur la transmission totale de la connaissance, dans ses aspects aussi bien ésotériques qu'exotériques, est caractéristique de la doctrine officielle des Fatimides, qui cherchent et promeuvent l'équilibre du Zahir et du Batin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est aussi, cette insistance donc sur la nécessité des deux aspects, elle est aussi caractéristique d'un mouvement qui a fait de l'initiation, donc de la transmission de la connaissance, notamment ésotérique, un principe d'organisation concrète, hein, quasiment militaire, en tout cas politique. Notons aussi que ce paragraphe... Oui, comme je l'ai dit, il y a des implications d'ordre ontologique, puisque ce qui est décrit ici est analogue à la distinction entre intellect et âme universelle. Le dernier passage explique davantage ce que sont les deux souffles de la trompe, et bien que le texte ne mentionne plus l'acte et la puissance, il évoque bien la dualité de l'énonciateur et de la fondation, dont on sait maintenant qu'elle est liée à celle de la puissance et de l'acte, respectivement. Donc le premier souffle, c'est l'appel exotérique de l'énonciateur. Oui, donc appel, c'est Darwa ici. L'énonciateur, c'est le Nantiq, c'est-à-dire Muhammad. La trompe est le Qa'im et Mahdi, le maître de la résurrection. La première fois qu'on y souffle, c'est l'établissement de la loi exotérique, la loi apportée par l'énonciateur qui terrasse toutes les créatures par la coercition de l'épée et de la crainte. Le second souffle est l'appel exégétique de la fondation, désigné par l'énonciateur. Il s'agit de la vie éternelle. Ils deviennent vivants après leur mort et vivent après avoir été terrassés. Ceci montre que le premier souffle provoque le terrassement de toutes les créatures, ce qui signifie qu'elles sont toutes rassemblées dans la mort, tandis que le second souffle est la vie spécialement réservée à quelques-uns, car elle est la manifestation du résurrecteur lors du cycle de la rétribution. Donc, comme on le constate, ce passage réintroduit une dimension eschatologique. L'eschatologie apparaît ici comme l'ultime passage en acte. Et la figure messianique correspond ainsi au second souffle et représente le point d'aboutissement de la transmission de la connaissance ésotérique d'imam en imam. L'auteur établit donc une correspondance entre le Mahdi, la trompe et ses deux souffles d'une part, et la double mission de Muhammad et Ali d'autre part. Il fait de la mission de Muhammad seul un symbole de la mort, de la coercition, qui est celle de l'islam et de ses prescriptions rituelles, tandis que la mission ésotérique de Ali représente la vie. Et ça, c'est un thème antinomiste qui est assez courant dans la littérature ismaélienne, cette idée que la loi musulmane, mais pas seulement, est un principe de mort, un principe d'emprisonnement, en fait, dont on ne peut s'échapper que par la connaissance ésotérique. Donc la résurrection est identifiée dans son accomplissement total, les deux souffles dans la trompe, à la connaissance ésotérique et à la vie éternelle. On note au passage que les deux souffles de la trompette sont nommés d'un terme de la même racine que le souffle du Christ donnant vie à l'oiseau dans le verset qu'on a vu tout à l'heure. En somme, et bien que le lien ne soit pas établi explicitement à ma connaissance, nos exégètes ismaéliens cherchent à mettre le texte coranique en cohérence avec lui-même et à harmoniser en fait ces deux usages du terme nafra ou nafara. Et ce faisant, ils tissent un lien, un de plus, entre initiation et eschatologie. Alors, en guise de conclusion, je me contenterai de vous présenter ce tableau récapitulatif, où pour les trois premières lignes, il n'y a rien là que de très classique et de très classiquement chiite. L'apport ismaélien, si vous voulez, réside surtout dans la distinction entre première création et nouvelle création, attribuée respectivement à Mohammed et à Ali, et à l'identification de ces deux, de ces deux créations à un être en acte, un être en puissance et un être en acte respectivement. Voilà, je vous remercie de votre attention.